Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, l'inflation qui atteint son plus haut niveau depuis 37 ans en Espagne. Madrid a carrément décidé de diminuer le nombre de métros pour réduire la facture d'électricité. Dans ce journal également, l'accord entre le PS et la France Insoumise qui se précise. Tony Parker, lui, ne sera pas ministre des Sports. Il ne le souhaite pas et il le dit sur RTL.
Et comme tous les jours, juste après le journal, on échange, on décrypte, on débat avec deux sujets. Qui sera le prochain Premier ministre? Pour l'instant, aucun nom ne suscite un réel enthousiasme. C'est ce qui ressort de notre sondage BVA. Et à 12h50, la voiture du futur increvable à partir de 2024. Pas celle de 2050, non, celle de demain.
Notre question du jour sur RTL.fr. Avez-vous déjà réservé vos vacances pour cet été? Alors que deux zones sont encore en vacances de printemps. Vous dites non assez massivement d'ailleurs à 73%. Notre météo avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Après les nuages de ce matin, revoilà le soleil.
Oui, alors c'est vraiment une toute petite dégradation parfaitement insignifiante qui traverse la moitié nord principalement. On la retrouve en ce moment entre la Bourgogne et la Lorraine. Ça va stagner un petit peu, mais vraiment il y aura simplement 2-3 gouttes de pluie et un ciel nuageux de part et d'autre. Donc du soleil, un petit peu d'instabilité également sur les Pyrénées cet après-midi et des températures qui restent relativement douces. On va partir de 13 degrés à Cherbourg pour atteindre 26 degrés à Nîmes cet après-midi, compter 17 à Lille, 20 à Tarbes, 21 degrés à Paris et Ajaccio, 22 à Strasbourg et 25 à Grenoble.
Merci Valérie, à tout à l'heure 13h pour le programme du week-end.
RTL Midi.
Et pour commencer, on part donc pour Madrid. C'est l'une des conséquences directes et très concrètes de la flambée des prix de l'énergie. La capitale espagnole a décidé de réduire le nombre de métros en circulation. Moins de rames, c'est plus long, mais moins coûteux en électricité, Diane Cambon.
Mécontentement ce matin dans le métro de Madrid après avoir pris la nouvelle. 10% de métro en moins, cela veut dire plus d'attente sur les quais. Durant la frange horaire de 14h-17h, le temps d'attente sera d'environ 8 minutes. C'est énorme pour Marco qui ne se déplace qu'en métro.
Ok, je comprends que l'électricité a augmenté pour tout le monde, mais c'est toujours les usagers qui payent. Et le résultat, c'est que nous sommes comme des sardines en boîte car il va y avoir moins de rames de métro.
D'autres voyageurs sont aussi inquiets car ils ne pourront plus maintenir les distances de sécurité contre le Covid.
Les gens s'assoient les uns à côté des autres et quand c'est plein, on va être totalement asphyxié.
Le métro de Madrid espère ainsi revenir à une facture d'électricité de 120 000 euros par jour au lieu de 800 000 euros au plus fort de la hausse.
À Madrid, le reportage pour RTL de Diane Cambon. Cette hausse des prix n'épargne pas bien sûr la France, hein, vous le constatez tous les jours. Et bien ça se confirme, plus 4,8% sur un an en avril, c'est du jamais vu depuis 37 ans. Dans le même temps, la croissance plafonne, zéro au premier trimestre et la consommation plonge, moins 1,3%. Martial Liu, est-ce qu'on peut dire que l'économie s'est mise sur pause?
Ah oui, c'est vraiment un jeu de domino économique. Hein. Ceux qui se souviennent des années 80, on est en train de retrouver cette valse des étiquettes avec des prix qui augmentent à vue d'œil. Symboliquement, la croissance française est donc à zéro. C'est dû à l'inflation qui galope. Du coup, les Français consomment moins et du coup, la croissance s'arrête puisqu'elle repose essentiellement sur la consommation. Voilà le jeu de domino. Au cours des dernières semaines, c'est vraiment d'ailleurs la consommation des produits alimentaires qui a pesé sur notre porte-monnaie puisqu'on a quand même été protégé par le bouclier tarifaire sur le gaz, l'électricité et l'essence. Pour info, l'inflation est en moyenne en Europe, ça a été communiqué ce matin, de 7,5%. On est quasiment au double de ce qu'on connaît. Nous, plus, hein. Ouais. Mais les produits frais ont augmenté de 6,6% en mars. Les autres produits alimentaires ont pris 3,8% en quelques semaines. Et selon le cabinet Asterès, si on reste à ce niveau-là toute l'année, ça va représenter entre 168 et 421 euros de surcoût pour toutes les familles.
Martial Liu, chef du service économie de RTL.
La bataille des législatives à présent, et on a cru ce matin que le PS et la France Insoumise étaient tombés d'accord.
Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
Ce n'est pas en fait tout à fait ça, en tout cas pas encore.
Bah effectivement, le PS dément même tout accord et précise que malgré des points de convergence, il reste des désaccords sur la forme et sur le fond. Alors dans le détail, sur les retraites par exemple, LFI parle de restaurer le droit à la retraite à 60 ans. Le PS écrit que c'est un objectif. Et sur les traités européens, les insoumis sont prêts à désobéir aux règles quand le PS consent à ne pas en respecter certaines sans toutefois mettre en danger la construction européenne. Reste qu'une partie des socialistes y voit un renoncement aux fondamentaux du parti, sans compter ceux qui localement refusent de s'effacer devant un candidat LFI parachuté. Un historique, Julien Drey, appelle même les militants à la désobéissance. Sauf que les écologistes de leur côté se disent maintenant quasi prêts à signer avec les insoumis, ce qui pourrait bien accélérer tout le processus vers un accord global à gauche, peut-être au prix de l'explosion du parti de Mitterrand.
Marie-Bénédicte Thaler du service politique de RTL, vous évoquiez cet appel lancé aux militants socialistes. Justement, qu'en pense-t-il ? Nerissa Emani, vous avez rencontré deux d'entre eux.
Oui, devant la mairie du 1er arrondissement de Paris où il travaille, Théo m'accorde ses quelques minutes de pause. Vous avez quel âge ?
J'ai 23 ans.
Et donc vous êtes encarté au PS ?
Depuis 2015 ou 2016.
Le jeune homme se dit déçu par le Parti Socialiste et ses discussions avec la France Insoumise, car lui ne souhaite pas d'un accord pour les législatives.
Je pense que la France Insoumise et le Parti Socialiste ne partagent pas du tout le même ADN. Il y a des points de divergence qui sont monstrueux sur l'Europe, la partie sur la République, sur la 6e République. On sait tous mathématiquement que ce n'est pas possible d'avoir la majorité avec l'Union Populaire. Donc je ne vois pas pourquoi on se fourvoie et on continue à aller dans ce sens.
Un avis que ne partage pas du tout Emma. Elle est militante, jeune socialiste et elle-même volontaire pour être candidate de l'Union Populaire dans sa circonscription du 11e arrondissement de Paris.
Les Français sont en demande du nom de la gauche. Pour nous, socialistes, c'est évidemment extrêmement important de se placer aussi du bon côté de cette histoire-là et de tout faire pour que la gauche puisse gagner aux élections législatives.
D'ailleurs, cette semaine, le mouvement des jeunes socialistes a voté à l'unanimité pour un accord.
Parole de militant socialiste avec vous, Nerissa Emani. Emmanuel Macron, lui, est aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées. Première étape, William Galibert, à Barbazan-Debatte, 3000 habitants près de Tarbes.
Oui, c'est ça, comme si la campagne présidentielle continuait encore et encore. Au menu ce matin, les selfies, les embrassades, les engueulades entre les stands du marché local où le président est arrivé depuis 10 minutes à peine, entouré par 200 ou 300 curieux. Ici, sous la halle, ce matin, c'est fritons de canard, haricots tarbais et fromage de brebis. Un président qui veut se montrer à portée de baffe, ou on pourrait dire maintenant à portée de tomates cerises, après les jets de fruits et légumes qui l'ont visé avant-hier sur un autre marché près de Paris. Bon, le message, il est assez clair. Je vais partout, je suis prêt à tout entendre, j'écoute tout pour casser l'image d'arrogance et pour montrer que lui est au plus près du réel pendant que les oppositions sont occupées à de la petite cuisine politique.
Et cet après-midi, William et Emmanuel Macron ira fleurir la tombe de sa grand-mère.
C'est l'autre volet de cette journée, Amandine, volet privé sur la tombe de Germaine Noguès, sur la tombe de sa grand-mère maternelle, sa Manette. Ça se passera à Montgaillard, non loin d'ici. C'est elle, enseignante, qui lui a transmis l'amour des livres, de l'histoire et de la géographie. Emmanuel Macron, traditionnellement très discret sur sa vie privée, il fait pourtant constamment référence. Il dit qu'avant de prendre la moindre décision, il se demande toujours ce qu'en aurait pensé sa grand-mère adorée. Et il avait prévenu qu'il souhaitait aller fleurir sa tombe pour lui rendre hommage juste après sa réélection.
William Galibert, en direct de Barbazan-Debatte dans les Hautes-Pyrénées pour RTL.
Emmanuel Macron qui avait reçu entre autres le soutien de Tony Parker pendant cette campagne.
Le basketteur star sera ce soir l'invité exceptionnel de Julien Cellier dans RTL Soir à partir de 18h15 et il l'assure, ministre des Sports, ça n'est pas pour lui.
Mais franchement, ça m'intéresse pas parce que je suis tellement impliqué dans mes business et j'aime tellement cette vie d'entrepreneur qu'aujourd'hui, je me vois pas faire de la politique. Après, le soutenir et tant que c'est on a les mêmes valeurs, je continuerai à le soutenir parce que je suis ambassadeur de l'éducation pour les Jeux Olympiques. Mais pour l'instant, ouais, non, je me vois pas faire de la politique.
Tony Parker avec Julien Cellier, un entretien exceptionnel à découvrir en intégralité ce soir sur RTL dès 18h15. La Russie confirme avoir frappé Kiev hier pendant la visite du secrétaire général de l'ONU. Frappes d'ailleurs qui sont condamnées à la fois par Berlin et Paris et qui ont fait au moins un mort. C'est ce qu'indique le maire de la ville, Vitali Klitschko.
L'attaque d'hier est très symbolique. Elle est intervenue lors de la visite du secrétaire général des Nations Unies dans notre ville. Kiev continue d'être sous le feu de l'ennemi. Cette attaque en est la preuve. Des roquettes ont touché un quartier paisible. Des immeubles ont été détruits. Depuis le début de cette invasion barbare, 435 civils ont été blessés et 4 enfants tués.
Des propos recueillis pour RTL par Sophie Jousselin. Notre envoyé spécial Marc Le Mans, lui, s'est rendu dans le nord de l'Ukraine, tout près de la frontière avec la Russie. Une zone récemment reprise aux troupes russes, mais où les bombes continuent de tomber. Reportage.
À cette époque de l'année, les cerisiers sont en fleurs. Il y a des pétales blancs partout sur l'herbe grasse. Et puis il y a deux cratères creusés par l'explosion d'obus. Et juste à côté, une veste déchirée, une chaussure, une paire de pantoufles et une canne. C'est tout ce qu'il reste des trois hommes âgés qui ont été fauchés par une frappe russe il y a trois jours ici. Viktor Nikolaevitch, 70 ans, connaissait l'une des victimes.
Ça me rend malade. Cette guerre m'attriste énormément. J'aimerais pouvoir retourner pêcher, jouer au football ou tout simplement parler à quelqu'un.
Les bombes sont encore tombées toute la journée. Malgré tout, Viktor a fait le choix de rester pour s'occuper de sa ferme et de ses animaux. Il enfourche son vélo, suivi de près par ses deux chiens. Et juste avant de partir, le vieil homme confie qu'il a moins peur des missiles que des soldats russes qui ont occupé son village. J'espère qu'ils ne reviendront jamais, dit Viktor. Je suis terrifié à cette idée.
Dans le nord de l'Ukraine, dans le village de Bezruki, le reportage pour RTL de Marc Le Mans. C'est un document, une info, pardon, qui est tombée il y a quelques minutes. La RATP annonce le retrait temporaire de ses 149 bus électriques qui avaient un nouvel incident ce matin à Paris, le deuxième en moins d'un mois. Un des véhicules a pris feu dans le 13e arrondissement. Le chauffeur a fait évacuer le véhicule et aucun passager, heureusement, n'a été blessé. Et puis vous serez nombreux sur les routes aujourd'hui et demain, c'est orange en Ile-de-France, suite des vacances pour la zone C, fin pour la zone A. Beaucoup choisissent le bord de mer en ce début de printemps. Je vous propose de mettre le cap à l'est, direction le lac de Madine, entre la Meuse et la Meurthe-et-Moselle. Moins de monde, des prix plus abordables et des activités tout aussi dépaysantes, Dimitri Ramelot.
Oui, le petit bateau électrique de 12 places s'éloigne petit à petit de la berge.
On est donc au lac de Madine. Vous avez là 1200 hectares d'eau.
Et ses trois amis, dont Christine, en profitent bien calés à l'arrière, au soleil.
C'est vraiment très agréable. On voit des catamarans, des cygnes. On a eu la chance d'apercevoir le seul cygne noir du lac qui a eu la gentillesse de nous faire un petit coucou.
Un grand moment de détente doublé d'un peu de pédagogie.
Pour créer le lac de Madine, on a monté deux ouvrages majeurs. On a deux digues, une qui est à votre gauche là-bas et celle qui rejoint le port de Nonsard au site de Dicourt. Le plus profond du lac est à votre gauche, ici, c'est l'embouchure du déversoir.
Et Agnès savoure cet endroit où elle revient régulièrement.
Le panorama est exceptionnel. On est dans un endroit de quiétude, de sérénité. Ça vous ressource. On déjeune à midi à la brasserie du port, en face des bateaux. On a l'impression qu'on est en bord de mer, vraiment.
Et après une heure d'observation, des sternes, des petits oiseaux qui trouvent refuge aux abords du lac. Petit café sur la promenade du port, bien loin des tracas du quotidien.
Sur le lac de la Madine, le reportage pour RTL de Dimitri Ramelot.
Qui sera le prochain Premier ministre ? Pour l'instant, aucun nom ne suscite un réel enthousiasme. C'est ce qui ressort de notre sondage BVA. A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Je ne vous ai pas annoncé ici qu'il s'agissait du dernier Conseil des ministres, ni évidemment du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui s'achève, je le rappelle, le 14 mai, ni de ce gouvernement.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a été très clair. Hein. Le Conseil des ministres d'hier n'était pas le dernier. Il va donc falloir encore patienter avant de connaître le nom du prochain Premier ministre. Une certitude, pour l'instant, aucun nom ne suscite vraiment l'enthousiasme des Français. C'est ce qui ressort de notre sondage BVA pour RTL et Orange. Bonjour Adélaïde Zulfikar-Pazik.
Bonjour.
Directrice du département Opinion de BVA. Benjamin Sportouf, chef du service politique de RTL, est également avec nous.
Bonjour,
bonjour Benjamin.
Bonjour à tous.
Un mot de la méthode d'abord peut-être Adélaïde. Vous avez soumis, vous, un certain nombre de noms aux Français que vous avez interrogés.
Oui, on leur a soumis 13 noms très exactement en leur demandant si ce serait un bon Premier ministre pour le prochain quinquennat. Alors cette liste de noms, on l'a construite avec Benjamin Sportouche et l'équipe de BVA par rapport à tous les noms qui circulaient récemment et en prenant en compte aussi le caractère crédible de choix. Donc on arrivait à une liste de 13 noms comme ça avec alors d'un côté des figures un peu rassembleuses, des figures de sages comme celles qui ont un peu pu émerger comme une évidence au soir du second tour. Je pense notamment à François Bayrou qui d'ailleurs revendique lui ce statut de sage au-dessus de la mêlée ou encore Richard Ferrand, avec des fidèles d'Emmanuel Macron comme Julien de Normandie. Et puis on a aussi beaucoup dit qu'il fallait une femme à tendance écolo. Donc il y a Nathalie Kosciusko-Morizet et Elisabeth Borne qui avaient succédé à ce poste à François de Rugy.
Et aussi Bruno Le Maire, Jean-Louis Borloo, Christine Lagarde. Aucun d'entre eux, finalement, ne déclenche l'enthousiasme des foules, si j'ose dire.
Ouais, c'est moins qu'on puisse dire, puisque celle qui arrive en tête de notre classement, c'est Christine Lagarde, citée par 37% des Français comme faisant un bon Premier ministre potentiel, mais 37% seulement. Après, on trouve Bruno Le Maire et François Baroin qui sont cités par moins de 30% des Français. Ensuite, Olivier Véran à 21%. Pardon. Et après, tous les autres sont sous la barre des 20%. Après, c'est pas très surprenant au regard de la séquence qu'on vient de vivre. On en parlait avec Benjamin à l'instant. On a vu au soir du premier tour une tripartition de l'électorat français autour de trois blocs. Donc, qu'un Premier ministre qui serait le premier Premier ministre du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron ne suscite l'assentiment que d'un gros tiers des Français, c'est pas très surprenant. Il faudrait trouver la figure rassembleuse de mouton à cinq pattes qu'on n'a pas encore trouvé manifestement.
D'autant que les Français, pardon, vous disent qu'ils veulent plus de gauche, plus d'écologie, et ils mettent des gens de droite finalement en haut de leur classement, non ?
Oui, alors c'est vrai qu'ils veulent plus d'écologie, ça, ils sont 7 sur 10 à le dire, quelle que soit leur sensibilité politique. Après, il faut dire que cette liste, on l'a construite de telle sorte qu'il y a plus de gens, puisqu'on a essayé de faire en sorte qu'elle soit crédible, il y a plus de gens proches d'Emmanuel Macron, du centre droit, que de gens de gauche. La seule personnalité de gauche d'ailleurs qu'on a mise, c'est Bertrand Delanoë. Et c'est aussi parce que il y a peu de figures, enfin ça montre aussi le problème de leadership à gauche qu'on a vu pendant toute cette séquence électorale. Le seul qui s'est imposé à gauche pendant la présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est même pas une option, ni pour Emmanuel Macron, ni d'ailleurs pour les Français, qui sont plus de 6 sur 10 à nous dire qu'ils ne souhaitent pas qu'il soit Premier ministre.
Benjamin, dans les noms qui reviennent le plus, il y a celui d'Elisabeth Borne. 18% des personnes interrogées estiment qu'elle ferait un bon Premier ministre, c'est pas beaucoup. Mais c'est vraiment une piste sérieuse, ça, Elisabeth Borne, ministre des Transports?
Oui.
Non, pas non, du tout de l'emploi, du travail, pardon, excusez-moi.
Elle a été ministre et elle est passée par l'écologie. Donc justement, ça fait trois cas. Elle est femme, elle est polytechnicienne, elle est bosseuse, elle vient de la gauche, même si, il faut le préciser, elle n'a jamais été encartée au PS. Donc oui, ça lui fait beaucoup d'atouts pour être cette femme un peu providentielle que cherche Emmanuel Macron, difficilement, visiblement. Elle est discrète aussi, sans ambition, ça c'est important pour un chef de l'État, vu ce qu'il est en train de vivre avec Édouard Philippe.
Surtout pour celui-là.
Surtout pour celui-là.
Parce qu'on a le sentiment parfois qu'Emmanuel Macron n'aime pas des personnalités fortes et qu'il n'a pas envie qu'on lui fasse de l'ombre.
Mais quels sont ses prédécesseurs qui ont aimé des
personnalités fortes ? Jean Castex était...
Non, mais aucun de ses prédécesseurs dans la République n'aime qu'on lui fasse de l'ombre. Vous le savez, surtout sur un second quinquennat où vous dites que vous voulez être tranquille. Et quand, en plus, vous avez une personnalité aussi qui a pris de l'ampleur comme Édouard Philippe, vous vous dites que vous préférez quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Et clairement... elle n'a pas d'ambition, Elisabeth Borne. Voilà,
ce qui n'est pas non plus une bonne chose de ne pas avoir d'ambition en général.
Non, mais pour soi. Oui. Après, vous pouvez en avoir pour la France, et pas forcément pour vous.
Sauf qu'elle, on n'arrête pas de citer son nom et ça ne ferait pas trop surprise. On sait qu'Emmanuel Macron aime bien surprendre.
Oui, exactement. Et puis vous savez très bien que plus un nom revient, moins il a la chance d'être Premier ministre. Que le cimetière des premiers ministrables est très très occupé. Et qu'ils n'ont, des gens qui n'ont jamais accédé à Matignon, il en est plein. Il n'y a presque plus de place.
Le mouton à cinq pattes, quand même. Au-delà des rapports personnels qui peuvent exister entre un Premier ministre et Emmanuel Macron. Est-ce que Jean-Louis Borloo ne coche pas toutes les cases? Parce que voilà quelqu'un qui est plutôt libéral et sur les entrepreneurs, mais qui a quand même une tendance sociale, mais qui a une tendance écologique... mais qui a travaillé dans les banlieues notamment. C'est vrai que
mais
ça s'est mal
femme.
Passé.
Alors,
il ne coche pas la case femme. Ça va être difficile.
Écoutez,
je vous pose ça maintenant. J'ai l'impression qu'il y a deux personnalités qui cochent les cases, Richard Ferrand et lui.
Richard Ferrand ?
Mais parce que pareil, il est plutôt à gauche.
Richard Ferrand, sur l'écologie, il n'a pas non plus donné des preuves.
En tout cas, je vous pose la question.
Non, mais vous avez raison. Écoutez, ce matin, je vais vous faire des confidences, parce que vous aimez ça. Ce matin, un conseiller d'un ministre, plutôt bien informé habituellement, me dit que le président de la République a son top 3. Et qu'en haut de son top 3, il y a une femme issue de la société civile. Ce n'est pas Elisabeth Borne, sorte d'Elisabeth Borne avant qu'elle soit au gouvernement. Donc, il faut trouver ce profil. Moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, je vous livre ça. Ah, j'ai pas demandé, mais si Martial nous en entend, parce qu'il va venir en studio nous le dire. Alors, j'ai pensé à Marie Hydrac, vous savez, qui a été ministre des Transports, parce que c'est vrai que c'est une femme de la société civile, et qui a été aussi patronne de la RATP, comme d'ailleurs Elisabeth Borne. Mais on me dit que non. Mais vous voyez, c'est un peu toujours ce profil. Il cherche une femme, ça a l'air vraiment d'être sa priorité.
Christelle Morancé.
Non, mais Christelle Morancé, là, vous m'avez pas écouté. Vous m'écoutez
trop
pas, Pascal. N'est pas société civile. Là, c'est le casting, c'est vraiment société civile.
Et la patronne d'Orange, par exemple.
Vous voulez mettre société civile pour un premier ministre
au gouvernement. C'est ça le profil.
Vous voulez mettre à la tête de l'administration française quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans l'administration française. Société civile, c'est ça.
Oui, mais alors, on a vu beaucoup de ministres être... Bah non, mais là, vous pouvez dire ça, Pascal, il y a eu beaucoup de ministres. Alors,
la ministre s'est entendue, mais vous voulez mettre au plus haut niveau de l'administration française quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans l'administration française.
Mais Jean-Louis Borloo, à quel moment il a travaillé dans l'administration française ?
Je vous pose les questions, je n'y réponds pas. mais il a quand même une expérience de ministre.
Mais d'accord, mais Jean-Louis Borloo, il n'a pas travaillé dans l'administration française. Donc, vous voyez, en même temps que... Mais non, il a été patron. Donc, quelque part, il a un profil particulier.
Mais ça serait quand même une grosse cote de mettre à Matignon.
Envoyé aux Français.
Ah oui, ça serait
qui ne sera pas trop technocrate, quelqu'un qui n'incarne pas justement ce que peuvent incarner notamment...
Oui, mais il faut quand même...
Sauf que Jean Castex a plutôt bien fait le job pour Emmanuel Macron. Vous voyez,
oui, donc c'est parce qu'il faut aussi un technicien. Oui, mais c'était dans un moment de crise, alors que peut-être que là... Enfin, je ne sais pas.
Oui, non, mais de toute façon, là, je vais vous dire, le seul qui sait, bien évidemment, c'est le
président. Donc on parle pour ne rien dire. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Ce que je peux vous dire, si
j'ai... bien fait de vous faire venir ce matin.
Je pars, Pascal.
Non seulement je ne veux pas que vous partiez, mais je veux que vous restiez jusqu'à 13h20 avec les auditeurs.
Mais juste a priori, écoutez, il n'y aura pas de Premier ministre avant le 8 mai, c'est ce qu'on me disait aussi ce matin. Voilà, il a le temps.
Tout dernier mot, Adélaïde, pas d'état de grâce cette fois-ci pour Emmanuel Macron, qui est même plutôt moins populaire que François Mitterrand ou Jacques Chirac quand ils ont été réélus.
Oui, il est moins populaire qu'il ne l'était lui en 2017 quand il a été élu. 62% à l'époque d'opinion positive, là, il est 20 points plus bas. Et puis, effectivement, moins populaire que, vous l'avez dit, Jacques Chirac et François Mitterrand. Mais il faut le souligner qu'à l'époque, il avait été réélu à l'issue d'une cohabitation. Donc, quelque part, il n'était pas complètement aux affaires. Donc, c'est une vraie différence. Et puis, Emmanuel Macron, avec 42% d'opinion positive, finalement, il est dans l'étiage qui était le sien depuis le début de cette crise sanitaire, ce qui n'était pas si mal pour un président sortant. Alors maintenant, pour un président qui démarre un nouveau quinquennat, effectivement, c'est pas génial.
Il aime jouer quand même au chat et à la souris, le président Macron.
Je crois que c'est bien résumé, Pascal.
On attendait un Premier ministre cette semaine, il laisse les oppositions comme ça se déchirer, et lui, il attend encore quelques jours pour décider. Ouais. Il laisse le pia-pia, comme on dit à l'Élysée, le pia-pia journalistique être en marche et nous on patiente.
Oui, en même temps il a le temps, hein. Il est président de la République sortant jusqu'au 13 mai.
Ça ne m'a pas échappé. Merci. Ouais. Vous restez avec nous, hein, jusqu'à 13h20. Mais bien sûr, vous n'avez rien à faire. Il est 13h52 et 12h52. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Propose donc un voyage dans le futur. Embarquement immédiat à bord de la voiture de demain. Le pilote, c'est vous, Christophe Bourou. Bonjour.
Bonjour.
Depuis ce matin, et alors que Michelin a annoncé que ses pneus increvables seraient prêts pour 2024, vous nous faites découvrir donc toutes ces innovations qui vont bientôt faire partie de notre quotidien. On commence donc avec ces fameux pneus.
Ah oui, et appelez-moi James, Amandine.
Oui, ça me plaît.
James Bond.
007 et sa voiture qui ne crève jamais, vous en rêviez? Eh bien, Michelin l'a fait. 15 ans de recherche, 50 brevets déposés pour un pneu capable de résister aux cailloux pointus, aux clous. Le secret, plus d'air dans le pneu, c'est une vraie révolution. Eh bien, à la place, vous trouvez un alliage de lamelles de fibres de verre et de gomme, ultra résistant pour une longévité multipliée par 3. Autrement dit, un pneu quasi éternel, car dès les premiers signes de fatigue, on va remplacer la bande de roulement à l'aide de machines 3D explique Cyril Roger, à la tête de la communication scientifique de chez Michelin.
On ne jettera plus son pneu. On va le recharger avec des imprimantes 3D. Et donc, vous arrêterez dans une espèce de station. Et là, des imprimantes 3D viendront sur le côté de la voiture et viendront recharger, en fait, votre pneu avec une bande de roulement. Par exemple, on peut imaginer que vous êtes au mois d'octobre, l'hiver se prépare, ben vous venez recharger avec une bande de roulement qui est adaptée à l'hiver.
Pratique et en plus c'est écolo. Il faut savoir que pas moins de 200 millions de pneus sont jetés chaque année en raison d'une crevaison.
Bon, et Christophe Bond, donc vous avez aussi des innovations côté essuie-glace.
Oui, on va changer de musique.
Ça m'a fait sourire ce matin.
Là, c'est l'essuie-glace qui va vous rappeler.
Je me suis dit à quoi ça sert.
Eh ben, vous allez voir, ça vous rappelle quelque chose à cette musique. C'est
Star Wars.
Voilà, et le sabre laser.
Oui.
Et bien là, ça va être l'essuie-glace laser. En fait, cet essuie-glace va vous débarrasser en un clin d'œil des poussières, des insectes. Tout sera détruit, pulvérisé façon puzzle, mais en quelques millisecondes. C'est vraiment génial. Oui. C'est la première innovation sur un essuie-glace depuis son invention en 1903.
Non, mais ça, c'est bien, mais ça calcule aussi visiblement le nombre de pluies qu'il y aura sur votre vitrine.
Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est Valéo.
Et je me suis dit, effectivement, à quoi bon, si on en est là...
Non, c'est super intéressant, parce qu'en fait, en fonction de la densité de la pluie, on va savoir exactement à quelle vitesse vous devez rouler. C'est pour la sécurité. Par exemple, votre voiture va automatiquement réduire sa vitesse. Et franchement, ça
c'est un gros, gros plus sur la sécurité.
Et justement, en termes de sécurité, on va aller encore plus loin.
Alors ça, c'est certainement l'invention
ça, c'est
qui va bouleverser nos habitudes. En fait, à l'avenir, vous ne serez plus gêné, vous savez, par le gros camion bien énervant qui vous bouche la vue sur la route. Et vous arriverez même à le faire disparaître, comme ça, en un claquement de doigts. Alors, non pas en vrai, mais virtuellement, sur l'écran de votre tableau de bord, grâce aux caméras de nos véhicules qui seront reliées entre elles via la 5G. Explication de Geoffrey Boucaud, le monsieur innovation chez Valeo.
Ça marche par la transmission de flux vidéo, par connexion, par connectivité. On est capable de voir la caméra de la voiture qui est tout devant. Et en fait, d'effacer en quelque sorte tout ce qui se passe et de retranscrire directement ce que la voiture tout devant voit et de voir ce qui n'est pas visible.
Alors, on voit devant, mais aussi derrière, puisque Valeo a développé un système qui permet, lorsque vous tractez une caravane ou une remorque, de voir pareil ce qui se passe derrière. Et ainsi éviter un mur ou un piéton pour manœuvrer en toute sécurité.
On va aussi personnaliser la clé, mais il n'y a plus de clé.
Alors, si vous avez la clé maintenant qui est par l'iPhone, et cet iPhone, vous allez pouvoir passer par exemple à votre fils ou votre fille, vous allez pouvoir lui passer un code.
Ma fille.
Mais attendez. Justement, parce que grâce à ce système, vous allez pouvoir paramétrer la vitesse. Explication avec Yves Pasquier-Deving, le patron de Volvo France.
Si vous êtes un père de famille et que vous avez des enfants qui viennent de passer leur permis de conduire par exemple, paramétrer une vitesse maximum, qui est la vitesse réglementaire par exemple pour les jeunes apprentis, ou alors vous prêtez votre voiture à quelqu'un d'autre et vous ne voulez pas qu'il y ait de risque de dépassement de vitesse, donc elle est vraiment limitée, par exemple, à la vitesse réglementaire, et cette voiture ne pourra jamais dépasser la vitesse réglementaire. Ça évitera des conflits de famille si jamais il y a un PV qui doit arriver pour excès de vitesse.
Alors ça, c'est l'avenir. On aura chacun un code qu'on pourra transmettre, mais mieux, par exemple, Pascal ou Amandine, vous avez un colis à vous faire livrer près de RTL, votre voiture est garée là, le livreur arrive, vous lui envoyez un code. Le coffre se déverrouille, il place le colis.
Génial.
Et ensuite la voiture se referme. Vous êtes prévenu par SMS. Et voilà, on peut imaginer un tas en fait, de services grâce à ces nouvelles clés.
Et la personnalisation, c'est ça la grosse tendance de ces prochaines années?
Oui, alors figurez-vous que nos voitures vont envoyer des messages sur le sol. On va personnaliser, de certaines façons, la route. Notre voiture sera reliée à notre GPS. Ainsi, les phares vont projeter, par exemple, une énorme flèche pour nous indiquer la bonne route, la bonne destination à prendre. Ça va éviter d'avoir le regard qui va, non pas sur la route, mais qui regarde le GPS. Votre voiture pourra aussi dessiner un signal aux piétons, les invitant à traverser en toute sécurité, selon Geoffroy Boucaud de Valeo.
Nos systèmes d'éclairage sont capables de dessiner sur la route un passage piéton potentiellement pour lui dire « je t'ai vu, tu veux traverser là, je t'en prie, vas-y et passe sur le passage piéton que je te dessine ». Donc ça, c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Avec des systèmes qu'on pourrait imaginer comme des vous avez vos rétroprojecteurs ou des systèmes à la maison de projection sur écran, et bien c'est la même chose de façon très compacte qu'on développe aujourd'hui dans la voiture.
Alors la personnalisation va pouvoir aussi changer la couleur de sa voiture, mais aussi...
changer la couleur.
C'est-à-dire
qu'un jour elle est rose, le lendemain elle est bleue.
Mais non, absolument. Mais quand il fait chaud par exemple, c'est peut-être mieux d'avoir une voiture claire.
Donc on pourra changer de couleur de voiture
en simplement en appuyant sur un bouton.
Ou associé à votre veste
c'est
rose
formidable.
Par exemple.
Et puis vous pourrez aussi, Pascal, changer le bruit de la voiture. C'est le paradoxe, les voitures électriques ne font pas de bruit, donc on rajoute du bruit. Les constructeurs ont déjà imaginé des sons, mais à la limite, on va pouvoir vraiment personnaliser le son de sa voiture. Effet waouh garanti.
Très discret.
Alors ça, c'est l'équipe de Stellantis, merci à eux, qui a composé cette musique de voiture, vous imaginez?
Juste ça, c'est pour demain vraiment,
c'est demain.
2023, 24, 25.
Pour le pneu, c'est 2024, et toutes ces innovations, c'est pas de la science-fiction, ça existe.
Et ça va coûter très cher, juste?
Ça risque d'augmenter les prix, mais comme d'habitude, ça arrivera sur les voitures haut de gamme, et ensuite, ça sera démocratisé.
Est-ce que vous pourriez équiper ma voiture d'un gyrophare?
Ça, c'est interdit,
vous n'avez pas le droit.
Ça, je trouve que ça serait formidable dans Paris. Il est 12h59, merci, vous nous avez fait rêver. À tout de suite.
RTL Midi.
Le Premier ministre, nous sommes avec Nicolas, qu'est-ce qui se passe-t-il? Nicolas, bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal.
Il est 13h.